BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, il est 9h30, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts, on est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur les sujets de l'actualité du jour et notamment la crise au Moyen-Orient qui repart, pétrole, inflation, le choc externe est-il de retour? Les marchés sont dans le rouge après la fin du cessez-le-feu annoncé par Donald Trump au Moyen-Orient. Le Brent repart, les taux remontent et la question est simple, les entreprises, les ménages et la BCE peuvent-ils absorber une nouvelle flambée de l'énergie? Dans le même temps, alerte sur la dette française, bien sûr, le taux à 10 ans est au plus haut depuis 2009, au-dessus des 3,90% ce matin. Plus de dette, plus d'intérêts, plus de déficits, la France est-elle déjà entrée dans l'effet boule de neige? Et les marchés sont-ils en train de voter avant les électeurs? Ce sera le deuxième thème des débats ce matin. Nous parlerons aussi de Donald Trump et de l'Espagne. Suite à la réunion de l'OTAN, le président américain qui a menacé Madrid de couper les échanges commerciaux au motif que l'Espagne ne dépense pas assez pour sa défense. Alors, coup de pression ou vraie rupture, ce sera le troisième débat aujourd'hui. Et puis enfin, faut-il mettre la fonction publique au régime sec? Gel du point d'indice, baisse des effectifs, effort sur les retraités. Le MEDEF veut 100 milliards d'économies d'ici 2030. Le ministre du budget, lui, a annoncé hier au syndicat de la fonction publique qu'il n'y aurait pas de hausse du point de l'indice, ce qui a mis les syndicats en colère. Voilà, on finira l'émission avec ça. Il est 9h passé de 32 minutes. C'est les experts et c'est parti. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeure d'économie à Neoma Business School et présidente du think tank Génération Libre. À vos côtés, Ludovic de Sauté. Cher Raphaël. Ludovic, bonjour, directeur délégué de la Tribune. Et j'ai le plaisir d'accueillir Roland Gillet. Bonjour Roland.
Bonjour.
Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles, conseiller de différentes institutions publiques et privées. Bienvenue à tous les trois sur le plateau. L'actualité du jour, c'est évidemment la reprise des bombardements au Moyen-Orient. Bombardements qui ont fait flamber les marchés hier. Est-ce qu'il faut craindre, question toute bête pour commencer, hein, on va voir les cours du pétrole ce matin, mais est-ce qu'il faut craindre un nouveau choc pétrolier, Nathalie Janson?
Alors que le pétrole augmente, c'est une chose, qu'on en arrive à effectivement une inflation avec un choc externe. Bon, moi déjà, j'aime pas trop ce terme, mais j'y reviendrai plus tard. Déjà, si on compare à ce qui s'est passé au niveau du Covid, puisque souvent c'est un peu la tentation, quand il y a eu le Covid plus la guerre en Ukraine, on a eu cette fameuse inflation de 2022.
Oui.
Et lorsqu'on
qui était de l'inflation et pas un choc de prix.
Qui était effectivement de l'inflation. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, quand vous regardez cette période-là, vous aviez bien des prix à la production qui avaient augmenté avant que les prix à la consommation n'augmente, oui, de façon très significative, puisqu'on était passé d'une base 100, enfin un peu moins de 100 en 2021, à en espace de un an à 121 au niveau de l'indice.
Donc 20% voilà, de hausse des coûts de production.
Puis 128.
Les supply chains étaient complètement
disruptés. On était à quasiment 34% en l'espace de 18 mois. Donc là, prix à la production qui augmente, donc en effet, très probablement, cette hausse ne pouvait pas se gérer autrement que le passer à la consommation, d'autant plus qu'on peut le passer, puisque la BCE avait inondé le marché de liquidités. Oui. Donc là, je suis désolée, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est bien de l'inflation monétaire, puisque la BCE avait fait tourner la planche à billets, comme les États-Unis, enfin comme plein de pays, oui, et donc on avait de l'inflation. Ici, maintenant, c'est effectivement différent. On a une tension sur le pétrole, donc un choc externe, bon d'accord, c'est un prix qui augmente, c'est comme si j'avais eu le prix, je sais pas, de quelque chose d'un élément très 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 important dans la production de beaucoup d'entreprises.
Oui, c'est quand même à la base de l'énergie qui nourrit toute la production.
C'est un élément clé dans beaucoup de cycles de production. Néanmoins, c'est un prix qui augmente. Donc c'est comme lorsqu'on augmente les droits de douane pour les entreprises américaines, effectivement ça augmente. Qu'est-ce qu'elles font avec cette augmentation d'un prix? Donc, effectivement, soit elles peuvent le passer au consommateur ou elles ne le passent pas. En fait, c'est là toute la question. Et si elles le passent au consommateur, est-ce que eux eux-mêmes peuvent aussi l'assumer. Donc, on n'est pas encore du tout dans l'inflation. Par contre, il est bien vrai qu'il y a ce prix qui augmente, oui. Que ça met en difficulté les entreprises, puisqu'elles doivent savoir qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles ont la possibilité de l'absorber, de ne pas l'absorber, comment elles font. Donc, je ne dis pas que ça ne crée pas de problème.
Donc, un choc pétrolier n'est pas un choc inflationniste.
Exactement, puisque le fameux choc pétrolier exactement, des années 70, c'était une méga inflation. C'était pas les prix, le pétrole n'a fait que révéler l'inflation qui était déjà là.
Vous êtes d'accord avec ça, professeur Gillet ?
Oui, et puis il y a un deuxième élément que vous avez rajouté, c'est que on s'excite, parce que c'est vrai que le pétrole est une donnée importante dans les coûts de production, mais il faut voir où il est retombé quand même. Moi, je voyais des gens qui étaient fort alarmés, et je l'avais d'ailleurs dit souvent lors de passages précédents. Oui, le pétrole est fort monté, mais vous avez vu à quelle vitesse il redescend. Il suffit juste que ça se calme un peu. Oui. On est redescendu en dessous de 2021, et on vient de remonter un tout petit peu.
Comment on explique ça? Allez,
regardez ce que, quand même, l'annonce a quand même été très claire. Trump fait des annonces, mais parfois il les respecte.
Oui.
Et je pense aussi que le timing était très intelligent, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vu sa négociation, c'est de commencer à bombarder la veille du sommet d'Ankara de l'OTAN. Donc là aussi, je pense que le timing n'est pas anodin, mais clairement...
Mais pourquoi c'est intéressant? Dites-nous, quelle est votre analyse là-dessus?
Ah ben parce que clairement, il est venu fort. Le détroit d'Ormuz, c'est un problème quand même d'abord chinois, asiatique et européen, parce que lui, de l'énergie, il en regorge. Oui. Le seul ennui pour lui, c'est le côté des prix. Mais vu les prix où ils sont tombés maintenant, c'est pas lui qui est affolé par rapport à sa source. Au contraire, pendant ce temps-là, il est une alternative pour nous en fournir à un prix plus élevé. Donc, sur ce volet-là, il est sain. Sain, j'entends Ayen, oui. Avec T, dans son raisonnement. Mais par contre, c'est ce qui est derrière, qu'il est beaucoup moins, c'est de dire, j'arrive là-bas fort, de dire, pour le moment, j'ai deux problèmes qui ne sont pas chez moi, qui ne sont pas, menacent pas les États-Unis ni le Canada d'ailleurs, qui menacent les Européens, c'est l'Ukraine, d'ailleurs, il y vient tout de suite après, et le détroit d'Ormuz. Bon, maintenant, je suis en train de faire le boulot, est-ce qu'on est tous d'accord? Je vois mal les Européens dire, avec ce que l'OTAN dépense, mais les Américains agissent, puisse dire là-dessus. Deuxième chose, il vient sur l'Ukraine, vous avez vu qu'à ce moment-là, il est tout à fait sympathique quand on est sympathique avec lui. Il dit à Zelensky, vous êtes beau courageux, c'est très très bien, ainsi de suite. Et il vient chercher, et c'est quand même là aussi très important pour lui, 100 milliards de dépenses qui vont se faire dans l'armement chez lui, des dépenses donc de matériel américain, déjà aussi parce qu'on n'est pas capable de les produire à la vitesse qu'on voudrait. Donc clairement, hier, il a toujours été comme il le fait, avec... Je suis très fâché, on reviendra tout à l'heure sur l'Espagne. Il l'a dit, il est fâché sur l'Espagne, et il a de bonnes raisons d'ailleurs de l'être. Mais pour le reste, il est venu et tout le monde est reparti. Vous avez vu que les déclarations côté européen ont été dans le même sens, même sur le côté des interventions en Iran, il fallait le faire, voilà. Donc clairement, pour le moment, si tout se passe, et il a ajouté derrière une chose très importante pour nous, je pense que ça ne durera pas longtemps, vu les frappes qu'on vient de faire, vous pouvez vous retrouver dans... une semaine peut-être à un cours qui sera encore plus bas que le dernier cours qu'on a eu, qui est bien en dessous de 2021. Donc pour le moment, faire peur à toute la population en disant on va avoir un choc inflatoire, je rejoins ce que Nathalie a dit, on n'en est pas encore là.
Et on a un marché d'excès, on était en excès sur le marché pétrolier avant le conflit, il ne faut pas l'oublier. Donc,
notamment du fait des Chinois
qui ont
très nettement baissé leurs importations.
Puis il y a de la substitution. Les pays du Golfe le savaient que la substitution était de plus en plus importante. De toute façon, là aujourd'hui, on est plutôt quand même dans un marché qui était en surplus. C'était ce qu'on disait au début de l'analyse en disant bon, c'est gênant, mais c'est moins gênant que si on avait été effectivement déjà en pénurie.
Alors en surplus, Ludovic de Sauté, parce qu'aussi on a tapé dans les réserves stratégiques. Bon, ces réserves, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Et puis il va falloir les reconstituer quand même, ces réserves stratégiques.
Oui, il y a encore de la marge, honnêtement. La lecture qu'on a depuis le début de la semaine, je rebondis vraiment sur ce que disaient à la fois Nathalie et Roland. C'est-à-dire que c'est pas le pétrole, la question centrale est absolument pas. Alors il y a une autre lecture quand même qu'il faut amener, je suis entièrement d'accord avec Roland, mais la difficulté, c'est quand même cette notion d'instabilité chronique. Ça, c'est la
difficulté. En même temps, est-ce qu'on croyait vraiment à ces 60 jours de négociations?
Il y a deux choses quand même. On était dans un fac-similé de paix, on va pas se mentir, donc on savait qu'à tout moment, la couture pouvait craquer, elle est en train de craquer. Maintenant, ce qui est notable, c'est évidemment pour les États-Unis, j'allais dire le détroit d'Ormuz un peu lointain, un peu exotique, c'est pas un problème immédiat. Pour autant, ça reste un guépier. Pour autant, ça reste un réel guépier parce que ce qui est dans le jeu aujourd'hui, c'est un jeu relativement équilibré entre l'Iran et les États-Unis auquel on assiste. Honnêtement, même si il y a eu des pauses, et d'abord il y a eu des pauses parce qu'il y a un problème de munitions qui commence à arriver à ce rythme-là.
C'est ce qu'on disait aussi, hein, que la pause était venue parce qu'il fallait reconstituer un peu les stocks, mais y compris américains.
Il y a une tension mondiale, on va dire, sur les munitions, et c'est une réalité des deux côtés. Mais pour autant, on est quand même dans ce jeu du chat et de la souris dans le détroit d'Ormuz avec un dialogue. Enfin, on se pince, hein. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la capacité aujourd'hui à l'Iran d'aller provoquer, d'attaquer trois bateaux, de déstabiliser une zone et de provoquer une situation, c'est quand même. On assiste.
Ils ont surpris les Iraniens.
Oui, on assiste quand même à une période assez clé sur laquelle c'est pas sûr que le brillant et les chromes de Harley Davidson des États-Unis soient aussi brillants dans quelques mois. Non, c'est une réalité aussi.
Oui, il y a aussi une chose, c'est que on a vu aussi que Trump, il est plein d'annonces et il est plein de résultats espertiles parce qu'il a le midterm devant lui. C'était très malin de dire à un moment donné, je signe un accord, mais je donne des délais dedans, tout en sachant qu'il va y avoir des accros. Et à chaque fois qu'il y a des accros maintenant, il affaiblit quand même économiquement. Il faut quand même regarder en dehors de l'aspect guerrier, où je rejoins ce que vous venez de dire, mais clairement derrière, il y a quand même le fait qu'il veut étrangler par tous les moyens l'économie iranienne qui n'était déjà pas superbe. Et donc aujourd'hui les Iraniens, à un moment donné...
Et notamment par des prix bas du pétrole.
Bien sûr, et bloquer les bateaux iraniens qui ont du pétrole dedans, c'est bloquer les ressources de l'Iran. Donc, c'est sûr qu'à ce jeu-là, il y en a un qui va être plus fatigué que l'autre, d'autant plus qu'il y en a un qui, lui, dans le détroit d'Ormuz, les Américains, je pense qu'ils peuvent gérer sans problème, même si ça ne veut pas dire que l'issue reste incertaine, mais il y en a un qui va souffrir beaucoup plus fort et qui souffre déjà maintenant, c'est l'Iran. Maintenant, la capacité à souffrir de l'Iran, est-ce que jusque où elle ira, ça on ne le sait pas. Par contre, ici, les frappes ont quand même été, semble-t-il, violentes sur des... C'est ce que Trump dit et ce que les experts ont l'air de dire aussi.
Oui.
Donc, c'est peut-être pas les dernières, mais à chaque fois qu'il en rajoute une couche, il affaiblit quand même drôlement l'Iran. Et donc, aujourd'hui, on peut penser que la sécurisation, c'est une chose, du détroit d'Ormuz, risque, c'est ce qu'il dit lui pour le moment, d'arriver quand même, même s'il restera encore des problèmes à gérer en Iran, dont le problème nucléaire. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il le fait en plusieurs étapes. Mais il a envie d'une chose, et on le voit encore comme il sort ici du... Regardez quand même quand il est sorti de Genève, enfin, de d'Évian.
Oui.
Bah, il est sorti en allant signer à Versailles. Je vous avoue que moi, en tant que Belge, je suis très heureux. Je suis très heureux en France. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on signe quelque chose à Versailles où ni les Français ni les Européens n'ont d'intérêt. Donc, généralement, le traité de Versailles, on fait partie, la France a fortiori, du lot. Là, on est venu le faire signer à Versailles. Donc, je trouve qu'il était très honoré de venir à Versailles, mais je voyais dans ses yeux, à l'habitude de Trump, il se dit, waouh, je suis quand même quelqu'un d'important et on me donne de l'importance. Donc, c'est qu'on a besoin de moi. Hier, je le voyais très friendship, hein, comme on dit, friendly, avec les Européens. Qui était très heureux de l'entendre dire on va mettre 70 milliards, 70 pardon, et 70 encore l'année prochaine pour Zelensky, et il était plutôt comme quelqu'un qui était sympathique avec celui qui fait la guerre à côté de lui, c'est-à-dire Zelensky, et les Européens qui le suivaient. Donc il joue ce jeu depuis toujours, même dans son premier mandat ici là. Il le joue encore plus maintenant parce qu'il a évidemment plus de pouvoir. Et il sait que c'est les midterms qui vont voir s'il en a toujours autant. Donc, il faut bien le regarder sur ce vol-là. Par contre, on est tous, à cause de lui et pas grâce à lui, dans une incertitude, puisqu'il balance un truc, il en rebalance un autre. Hier, le seul truc qu'il a dit qui me semblait vraiment hors contexte, c'est quand il a parlé du Groenland. D'ailleurs, tout le monde l'a regardé, il a dit qu'un mot. Je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même, mais pour le reste...
Bon, enfin, je vous sens pas paniqué par une reprise du conflit. Le pétrole devrait gérer. C'est vrai que
regardez, c'est ce que j'allais dire. Les marchés,
oui, les marchés
repartent dans le vert ce matin.
Ils ont pris acte, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand. C'est toujours pareil, les marchés. Comme on savait que c'était incertain, enfin que c'était fragile. Maintenant, le point de rupture, on n'avait pas la date. Bon, voilà, le point de rupture est arrivé. On ajuste et puis après on recommence. Enfin, je pense que là, on est dans une espèce de stratégie.
On est autour de 74 dollars maintenant.
Oui.
Avec ce qui vient de se passer. Il y a deux mois, on nous aurait dit on est à 74 dollars, on sautait tous de joie.
Hein,
les 120 dollars. Donc, 120,
c'est
monté à 76 maximum.
Oui.
Parce que le détroit d'Ormuz, c'était considéré comme
bombe atomique.
Le détroit d'Ormuz, ça montait à 150 dollars.
Mettons même pour montrer à 80. Si on regarde quand même l'évolution des prix,
non, on est sur le prix normal.
On est plutôt dans le bon, hein, oui, pour le moment.
Je rappelle qu'on était à 70 dollars, autour de 70 dollars, hein, juste avant le début de la crise au Moyen-Orient,
mais,
au mois de février.
Par contre, je trouve que ce qui est dommage, et on en a déjà parlé souvent, c'est l'effet d'annonce, d'autant plus que les gens voient le prix à la pompe, sur leur morale.
Oui.
Dans une consommation fragilise des gens en Europe, je trouve leur faire peur, alors que ce n'est pas nécessaire, en disant, vous avez vu, les prix du pétrole remontent, il faut alors les relativiser par rapport à où ils pourraient être et où ils auraient dû être, comme certaines prévisions étaient au moment où la guerre a commencé.
Il faut arrêter de faire des
annonces. Je trouve qu'on leur fait peur et ce n'est pas bon pour notre économie. Hein, parce qu'un jour, vous aurez même des gens qui croiront qu'on va avoir la guerre si on continue. Donc, si on rajoute l'histoire de la Pologne, hein, dont ils ont parlé d'ailleurs hier aussi à Ankara, et qu'on rajoute le côté, oui, mais il y a ceci, il y a une hausse de l'énergie, on n'en a pas assez, ça on le sait.
Ah bah le discours peut être très anxiogène, évidemment.
Dans une période comme celle-ci, je pense qu'on devrait faire attention.
Et on a plutôt tendance à parler des trains qui arrivent en retard, Ludovic.
C'est important ce que dit Roland, mais c'est notre réaction ce matin spontanée collective, c'est qu'on a une forme d'accoutumance à ce côté répétitif dans
de résilience.
On est en train de commenter ça comme si finalement ça devenait l'actualité standard. Non, mais c'est ce qui aurait été un fait d'actualité majeur il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue. Pour autant, là c'est aux Belges que je vais m'adresser, pour autant, c'est pas parce qu'on modifie les règles et qu'on substitue un carton rouge qu'on gagne à la fin. C'est-à-dire que c'est Donald Trump, la difficulté profonde sur laquelle on est, c'est que les règles du jeu ne sont pas claires.
C'est l'instabilité permanente. Et alors aussi notre côté parfois bisounours. Allez, quand j'entends, et plusieurs décideurs politiques européens l'ont répété, j'étais en Espagne la semaine dernière, et aussi Pedro Sanchez, a fortiori, l'a dit, on ne va pas laisser la loi du plus fort s'imposer. Mais enfin, je suis désolé, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde microéconomique ou macroéconomique, c'est toujours la loi du plus fort qui s'impose. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le plus fort et la manière de le faire, c'est autre chose. Mais quand vous arrivez dans une négociation, et Mark Rutte l'a très bien répété, Mark Rutte est hollandais.
L'État général de l'Hollande.
Voilà, il prend des chiffres, on doit quand même regarder les chiffres avant de se battre, quoi. Hein. Alors maintenant, si on dit, la manière dont on nous le dit est tout à fait désagréable, il y a des choses même qui ne sont pas justes, c'est une chose de dire de l'autre côté, on peut renverser les choses parce qu'on est aussi fort. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même un peu garder raison, quoi.
Et
c'est ça qui nous manque à certains moments.
On n'est pas en capacité en tout cas de...
Oui, on peut dire aussi des choses désagréables, mais celui qui est en face peut nous faire mal, quoi.
Bon, on avance, on va revenir sur le sujet de l'Espagne et des États-Unis en seconde partie de l'émission, mais une des conséquences ces reprises du conflit au Moyen-Orient. Hier, c'était sur les marchés souverains, le marché de la dette, notamment en Europe. Le taux français à 10 ans a touché son plus haut depuis 2009. On est encore ce matin autour des 3,90. On est monté à 3,92. Est-ce qu'on va bientôt arriver aux 4%? C'est possible ça, Nathalie?
Ah bah oui, enfin je ne peux pas vous dire que c'est pas possible, je mentirais.
Il y a un niveau symbolique, hein, je veux dire.
Oui, il y a un niveau symbolique, mais c'est vrai que là, vous voyez bien que les annonces des dernières semaines, enfin même de la semaine dernière, on a les révisions à la baisse de la croissance.
C'était mardi,
voilà,
hein,
qui convergent, des rapports de l'OCDE qui sont pas foufou, le FMI pareil, et puis en même temps, on a l'Allemagne, bon, qui ne va pas bien, mais qui a l'air de vouloir faire des réformes qui vont plutôt dans le bon sens. Donc, si vous êtes sur le marché du souverain, vous voyez celui qui a quand même plus de capacité que nous à s'endetter. Enfin, dans sa, bon, il a beaucoup, il a une marge énorme.
Ah,
L'Allemagne
oui,
a beaucoup de marge qui va à nouveau
une
qui
dette
s'endette.
De fois inférieure,
voilà,
au niveau de la France.
Et qui va s'endetter à nouveau par rapport à un pays qui est un peu exempt, qui s'est déjà beaucoup endetté et qui veut pas se réformer. Bien, je peux comprendre que le marché du souverain se dise que peut-être que l'Allemagne, finalement, je vais l'acheter, je vais le préférer à la France dans mon panier de diversification. Je ne dis pas que c'est la fin de la France, je dis simplement que au niveau des arbitrages, l'Espagne va bien, c'est pareil économiquement. Enfin, quand vous regardez, vous faites votre panier de souverain européen,
oui.
Bah effectivement, la France semble pas celle qui aille le mieux, donc bah c'est voilà par mécanisme de marché, c'est celle dont le taux augmente. Enfin, ça me paraît pas vraiment.
Ça a des conséquences pour nos finances publiques très
directement.
Il y a quand même un pays qui fait pire, c'est le Royaume-Uni.
Oui, mais
ça va vraiment mal.
L'Italie, la France, le Royaume-Uni, dans le mougir.
Non, sur l'échelle, parce que vraiment le grand malade en ce moment, c'est le Royaume-Uni.
Bien sûr.
Mais pour l'investisseur, c'est pas son panier euro.
C'est-à-dire là la séquence, et c'est en ça que l'instabilité chronique est mortifère. C'est-à-dire que la séquence, là, elle révèle toutes les fragilités de la situation française, très clairement. C'est-à-dire le fait que nos marges de manœuvre sont faibles, qui plus est à 10 mois d'une présidentielle qui va faire monter la tension et qui va probablement inaugurer une forme de concours Lépine de propositions diverses et variées qui vont rassurer une partie des investisseurs. Ça, c'est très, très probable. C'est dans les propositions qui vont être mises sur la table. Maintenant, c'est, j'allais dire, la France... probablement dans la décennie dans laquelle nous sommes rentrés depuis le Covid, on essaie de le dater comme ça, la France aborde une période assez cruciale au plan géopolitique, au plan économique, dans une situation de fragilité qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire que le calendrier français des réformes, ce pays a mis trop longtemps à se réformer, contrairement à l'Espagne.
On est bloqué depuis 18 mois maintenant.
On est bloqué depuis 18 mois, mais là, on rentre dans une séquence où on va le payer deux fois plus cher, honnêtement, parce que c'est, j'allais dire, il y a des questions de morale, de consommation. On est quand même dans un hiver un peu anxiogène et on n'a pas le sentiment que l'économie va redémarrer du jour au lendemain et des taux de croissance qui permettraient de nettoyer un petit peu les grands indicateurs et de se dire, OK, il y a des marges de manœuvre. Non, la situation est très, très complexe et malheureusement, j'allais dire, on va devoir faire des réformes dans un régime très douloureux, c'est-à-dire à la fois en ayant mal et en ayant de la fièvre. Donc ça va être très compliqué.
En ayant très peu de croissance, on pourrait tomber dans une crise de la dette en France. On en parle depuis 20 ans, 25 ans, Roland Gillet. Le rapport Pébro tirait la sonnette d'alarme au début des années 2000. On voit que finalement, on continue de tourner. Bon, là quand même, si on approche les 4% sur le 10 ans, est-ce qu'à un moment... on peut tomber dans un effet boule de neige qui fait qu'on n'arrive pas à se sortir d'un surendettement constant.
En tout cas, il fait certainement mal par rapport à la volonté de dire on continue le social comme on voudrait le faire. Parce qu'avant, le social, il coûtait pas cher avec une dette qui était à ce niveau. Or, chaque fois qu'on a fait du social, et j'ai pas dit qu'il fallait le faire, c'est ce taux de financement qui rentre dans le budget, c'est les intérêts. La dette, elle s'accumule à côté, comme un bilan de société. Par contre, dans le budget de l'État, et ce qu'on dit chaque année, le déficit, il est lié aux intérêts, bien entendu, également. Mais les intérêts avant ne coûtaient pas cher. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de bien quand les taux d'intérêt remontent, même si ça fait mal à un moment donné, c'est que c'est aussi un effet autodisciplinant pour celui qui fait cet endettement.
Si vous avez c'est même états, la seule corde
si
de rappel.
Vous, oui, si vous avez bien. Des États... Et je ne dis pas qu'au moment du Covid, ce n'était pas sûrement pas l'objet de dire que ça ne servait à rien. Au contraire, il fallait bien faire quelque chose avec une crise exceptionnelle comme ça qui permette de s'en sortir. Mais quand les taux tombent à zéro et qu'ils restent à zéro, au-delà de la crise du Covid ou presque, et en termes réels, sont même négatifs, ça ne pousse pas celui qui s'endette, c'est-à-dire l'État, à s'autodiscipliner.
Bah pendant 10 ans, budget, on a augmenté la dette, mais ça nous coûtait de moins en moins cher.
On est parfois très égoïste, je sais que les hommes politiques ne sont pas tous comme ça, mais vous pouvez dire, je fais des dépenses maintenant qui me donnent une popularité, en sachant que c'est probablement un gouvernement après qui payera des intérêts positifs réel sur cette dette. Donc clairement aujourd'hui,
non, vraiment certains politiques pensent comme ça.
Je dis que ça pourrait tenter certains. Vous êtes d'accord?
Bah, le public choice vous donne raison.
Voilà. Hein, voilà, voilà. Donc, Nathalie, merci beaucoup. Non, mais c'est clair. Mais je veux dire, dans ces moments-là. C'est ce qui permet un peu de discipline. Allez, vous avez des gens qui se sont battus sur les idées et qui sont toujours là aujourd'hui dans le raisonnement de gens rationnels. C'est des gens comme Modigliani Miller, ils ont reçu le prix Nobel pour ça. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? C'est que forcément, le taux d'intérêt, il est censé, à un moment donné, refléter le risque.
Oui.
Et donc, aujourd'hui, je réponds à votre question, quand les taux montent à 4%, il n'y a pas uniquement l'inflation. C'est de dire, puisqu'on continue à s'endetter, dans un pays où on sait qu'on devrait faire attention, mais qu'on n'arrive pas à s'en sortir pour des raisons politiques, pour des raisons que l'effort, on ne le fait qu'un certain temps, puis on saute à autre chose, et bien à un moment donné, il y a des gens qui effectivement se disent pour le moment, la seule manière
de... Nos créanciers se réveillent.
Et ça fait d'autant plus mal qu'à ce moment-là, les comptes que vous avez fait l'année avant avec des taux d'intérêt plus bas, vous les retrouvez avec un effet qui n'est pas encore boule de neige, mais qui vous fait mal dans vos projections à vous. Et comme Nathalie vient de le dire, 4%, pourquoi pas 4,5%, ça dépendra de plusieurs choses.
Exactement.
Mais c'est clair que de rajouter à la louche chaque fois de l'endettement, pour des raisons, même le côté militaire aujourd'hui, avec l'idée quand même un jour de ne pas s'en servir, du militaire, ça n'a qu'un effet direct dans l'économie une fois. Ce n'est pas comme si c'était une dépense d'investissement où vous créez quelque chose dont vous allez vous servir. Des armes, c'est pour le côté sécurité, c'est pour le côté défense passive pour le moment, mais tout ça coûte très cher et ça vient se rajouter à un paquet d'endettement qui est déjà élevé.
Je rappelle que la charge de la dette est passée 35 à plus 70 milliards.
Et c'est possible aussi que la génération future, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui,
doivent peut-être que personne, la majorité ne s'en rende pas compte, se dire c'est un peu normal que ceux qui ont engagé les dépenses maintenant en subissent aussi une partie du coût et que ce ne soit pas quelque chose qu'on aura adressé nous seuls, même le coût de ce financement. Parce que imaginez que les taux d'intérêt restent autour de 2% et que l'inflation reste autour de 2%, pour le moment, en termes réels, on ne paie rien. Hein. Oui. Donc clairement, l'État est content, tout le monde est content, mais ceux qui vont récupérer un jour la dette ou là... À ce moment-là, les taux d'intérêt reviendraient dans une structure normale, eux vont payer réellement le coût. Or, c'est pas eux qui ont engagé les dépenses.
C'est ça qu'il faut bien expliquer, parce que c'est un raisonnement d'économie que tous les économistes connaissent, R supérieur à G ou vice-versa, entre les taux d'intérêt et la croissance. Bien rappeler qu'aujourd'hui, alors, on affiche des taux à 10 ans à près de 4%, mais le coût moyen de la dette française est autour de 2%, puisqu'elle est étalée sur 8 ans et que la dette qu'on a contractée il y a 8 ans était une dette quasiment à taux zéro. Mmh. Aujourd'hui, on voit qu'on est quasiment à 4%, vous faites la moitié, on arrive à 2%. Mmh. La croissance, y compris avec l'inflation, est également autour de 2%. Donc, tant qu'on est dans cette situation, ce que vous nous dites, Roland Gillet, c'est que c'est soutenable.
Ah, soutenable, oui, bien heureusement, hein, parce que si ce n'était pas soutenable, un pays comme la France, en plus, vous imaginez. Moi petit voisin belge, si je pensais un tout petit peu à que la dette française n'est pas soutenable, je pense que je ne serais plus en Europe. Parce que le problème est très grave. Hein,
sauf que le risque, c'est qu'au fur et à mesure, la dette qu'on a contractée il y a 8 ans, on va se réendetter pour la payer aujourd'hui à 4% et que ce taux va monter alors qu'on voit la croissance, qui baisse.
Et vous avez aussi cet aspect.
Donc là, on est un peu au pied du mur.
Oui, et avant, les gens qui géraient la dette ont été malins. Ils ont vu qu'ils pouvaient s'endetter non seulement à des taux très bas, mais à très long terme. Donc ça permettait justement de dire on assure au moins un crédit très court.
Rallonger la maturité.
Mais aujourd'hui, ce que vous avez, avant vous aviez plus ou moins ça comme courbe des taux, maintenant on est plutôt sur quelque chose qui monte comme ça. Mm. Mais si à un moment donné, on voit qu'il y a des risques plus élevés, pas sur la soutenabilité directe, mais en tous les cas sur la crédibilité de l'endettement en France ou ailleurs, vous allez avoir une pentification évidemment en plus. Et cette pentification va faire que les taux longs, pour s'endetter long, il faudra payer beaucoup plus cher, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, donc ça change quand même drôlement.
Oui, heureusement, effectivement, avant le Covid, on avait beaucoup utilisé la dette à 30 ans. D'ailleurs, c'était le cas de tous les pays européens. Mais effectivement, la pentification, ça, c'est ce que redoute en fait tout le monde, c'est qu'elle continue, qu'il y ait une accentuation de cette pente et que par conséquent, ça devienne de plus en plus cher. Et donc là, ce fameux taux d'intérêt nominal soit effectivement beaucoup plus élevé que la croissance.
Actuellement, on est d'accord.
Exactement, ce qui se passe actuellement. Et d'autant plus qu'avec ce niveau de dépenses publiques qu'on a, on a aussi d'un autre côté le problème d'un rendement négatif de l'effet de la dette. C'est-à-dire qu'en fait, on s'endette, mais la dépense publique n'a plus d'effet positif en fait, sur l'économie. Et c'est le problème de l'étouffement. Donc là, on se retrouve presque d'ailleurs dans un scénario...
La grenouille dans la marmite,
voilà, exactement.
Comme on dit.
Roland, parce que c'est sur cette notion là d'investissement, notamment sur la défense, c'est assez intéressant et je pense que ça mérite une petite pause. C'est-à-dire que dans les grands dossiers aujourd'hui que doivent prendre les économies européennes, y compris la France, chacun dans la situation, il y a quelque chose, autant l'IA, on peut parler d'une bulle et tout ça, mais l'IA, on va dire, il y a un pari sur le fait de créer une économie. On a quatre grands dossiers sur lesquels c'est des investissements sur lesquels on n'est pas sûr que derrière, à la clé, il y a une économie. C'est l'adaptation climatique, la défense, la démographie et la souveraineté.
C'est-à-dire une grande révolution qui nous tend les bras.
Ça demande quoi? C'est quatre dossiers qui ont un point commun. Ça demande de la mobilisation, c'est-à-dire l'investissement, mais pas pour autant dans la certitude que derrière, on crée des chocs économiques. C'est-à-dire, c'est juste mettre les pays à niveau sur des enjeux qui sont des enjeux structurels forts. Hein. Et c'est là où la dette se paye très cher. Parce que là, on est dans une période où probablement sur ces grands dossiers-là, la dette, la capacité à s'endetter à bon prix serait très, très utile.
Bien sûr.
Et on ne l'a pas. C'est-à-dire, on ne l'a pas parce que, j'allais dire, le rythme courant des dépenses publiques font que ce sont des dossiers sur lesquels, là, si les pays ne se préparent pas à ces enjeux-là, là, on va avoir des problèmes structurels importants.
Dans un environnement qui est plutôt à la hausse.
Mais vous voyez aussi que les banques centrales, et notamment en Europe, et ça devient aussi le problème, c'est quand on ne peut plus le faire budgétairement, avec des taux d'intérêt qui doivent être à un moment donné, s'ils sont dans l'ordre de ce que la finance, et même pas la finance, de ce que la logique d'un investissement pour un investisseur doit être, c'est de dire, si je prête de l'argent à l'État comme à un autre acteur, je dois au moins avoir une rémunération minimale au-delà de l'inflation, ce qui n'est presque plus le cas. Donc clairement, si vous dites j'ai besoin d'argent à un taux plus bas, à qui faites-vous appel automatiquement à la banque centrale, la vôtre? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, elle biaise les règles du jeu, hein, c'est la politique du quantitative easing et du reste, c'est-à-dire elle rachète de la dette pour faire baisser évidemment le taux. Et donc on joue un jeu comme ça, mais attention, et c'est ça que je trouve qui est dangereux, c'est qu'après ça devient le rôle pratiquement de la banque centrale, alors que ses attributs c'est de conserver le pouvoir d'achat de la monnaie et éventuellement l'emploi. Si on donne à la banque centrale des rôles qu'elle n'a pas, alors ça devient dangereux parce que c'est la banque qui joue la politique économique d'un État qui doit faire attention à son budget.
Bon, ce sera le mot de la fin. On se retrouve dans une minute. Restez avec nous. On va essayer de voir pourquoi Donald Trump s'en prend à l'Espagne dans la seconde partie de l'émission. Et s'il faut mettre la fonction publique au régime sec, c'est un peu ce qu'a annoncé hier le ministre des Comptes publics, David Daniel. On se retrouve tout de suite. Ne quittez pas.
BFM Business et la Tribune présentent Les Experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour dans Les Experts. Il est 10h passé de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business avec Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de la Tribune, et Nathalie Janson, professeur d'économie à Neoma Business School et présidente du think tank Génération Libre. Je voulais qu'on reparle un petit peu de Donald Trump qui s'en est pris assez violemment à l'Espagne. C'était hier, hein, sortie de l'OTAN. On a le son de Donald Trump. On l'écoute tout de suite.
Je n'ai pas parlé à l'Espagne. L'Espagne est une cause perdue. D'ailleurs, nous ne voulons plus avoir aucune relation commerciale avec l'Espagne. Je voudrais que vous y mettiez fin. L'Espagne est un partenaire épouvantable au sein de l'OTAN. Elle ne participe pas, elle ne paie pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Cessez tout échange commercial avec eux, s'il vous plaît.
En fin de compte, quand on prend un peu de recul par rapport à ce genre de déclaration, on constate que les relations entre les États-Unis et l'Espagne sont sur les plans social, culturel, économique et politique très très positives, très positives.
Bon, deux salles, deux ambiances là. Pardon Roland Gillet, mais on a d'un côté le président américain qui tense vertement l'Espagne, et puis de l'autre, un Sanchez qui finalement, tout fonctionne là. Comment on explique cette dissonance? C'est pas la même ambiance.
Mais de nouveau, vous savez à quel point je fais beaucoup de choses avec l'Espagne, et j'y étais encore, je vous le disais, la semaine dernière, mais j'avais des entrepreneurs qui, eux, s'inquiétaient justement de la position de Pedro Sanchez en disant, est-ce que c'était bien le rôle d'un seul pays? Allez, Il y a ça, mais il ne l'a pas rajouté cette fois-ci, mais il l'aura déjà dit deux ou trois fois de façon beaucoup plus ferme.
Ah, il est devenu le héros de l'anti-Trumpiste en Europe.
Mais regardez, le truc qui a fait le plus mal dans l'esprit Trump, c'est de ne pas laisser atterrir des avions sur deux bases en Espagne, de l'OTAN, qui était normalement disponible pour le faire. Il a pu atterrir ailleurs, hein, c'est pas le sujet, mais ça fait mal, puisqu'il a l'impression quand même, lui, quand il vient régler des problèmes dans le détroit d'Ormuz, qu'il le fait aussi pour les Européens, même si les Chinois sont tout aussi intéressés. Mais de voir maintenant, et c'est ça, moi je suis belge, je suis pas espagnol, mais j'écoute les Espagnols quand j'étais là-bas, et c'était des entrepreneurs, ils disaient, mais pourquoi a-t-il été mêlé de ça, si ce n'est pour se donner une ossature dans un moment où il semblerait qu'il va perdre les élections, de lutteur contre le plus fort. Hein, vous avez vu que Donald Trump n'a aucun égard vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et d'autant plus, il part fragilisé, puisqu'il a déjà dit avant, en dehors de ce problème lié aux bases aériennes, c'est de dire, moi je ne payerai pas, alors que les autres, au niveau de l'Europe, à un moment donné, ont tous dit... N'oublions pas quand même 2014. Hein, en 2014, on a tous signé, l'Espagne compris, qu'on devait arriver aux 2%. Donc, de demander cet effort à tout le monde, y compris aux Espagnols, c'est un manque aussi de solidarité vis-à-vis des autres Européens, hein, que les choses soient claires. Et donc, tout ça étant, le voilà embarqué dans un truc où il pensait que ça allait passer et que lui allait n'avoir que le bon côté. Sauf que vous voyez qu'il a été très blessé, Donald Trump. Il n'aime pas ça du tout. Vous avez vu les propos qu'il tient. Quand il est là, je vois le sourire crispé de pas du tout de Donald Trump, mais de Pedro Sanchez, qui est obligé de dire, parce que l'Espagne a envie d'entendre ça, non, c'est pas fini, on va rétablir. Mais pour le moment, ce qui menace l'Espagne, c'est plutôt de ne plus faire de commerce. On sait que Trump peut revenir vite en arrière, hein. Mais en tous les cas, son coup de dire « je le fais tout seul et je me fais le fort en Europe », les Espagnols se disent maintenant, au début on trouvait ça peut-être un petit peu dans notre ego intéressant, maintenant ça devient quand même coûteux et il faut qu'il arrête parce que maintenant le ton de Trump, c'est même plus parler de l'Europe, vous avez vu ce qu'il a dit ici en sortant. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention et je peux vous dire que les Espagnols aussi bien la population avec les gens à qui j'ai parlé, mais surtout des entreprises sont sur le volet, il faut arrêter ça. Surtout des entreprises qui, il n'y en a pas dans beaucoup dans le sud où j'étais en Andalousie, mais oui. quand même certaines qui échangent avec les États-Unis où il y a déjà des tarifs et où oui. ils disent si on en rajoute déjà nous-mêmes, c'est pire. Quoi.
Non, mais en même temps, est-ce ouais. qu'on peut rompre comme ça ouais. les relations comme
non,
ça
Non, c'est quand même amendé ce que dire. Honnêtement, quand on regarde les images, on se demande si c'est Luis de la Fuente, c'est-à-dire l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Enfin, on a l'impression qu'on parle de Coupe du Monde.
Oui, oui, tout à fait.
C'est ce niveau-là. Donc ça, c'est la première remarque globale. C'est la journée qui veut ça, peut-être. Dans la deuxième chose, c'est que on sait avec Donald Trump. Alors, je ne sais pas quel jeu c'est. Si c'est le jeu de la balle aux prisonniers, la chaise musicale et tout ça. Quasiment tous les leaders européens sont passés par cette seringue-là. Hein.
Oui.
Alors, Merz a eu son moment aussi au moment du détroit d'Ormuz, quand il a dit que Donald Trump était en train d'improviser. Meloni a eu sa séquence il n'y a pas très longtemps. Macron l'a eu il y a quelques oui. mois. Enfin bon, Starmer, j'en parle même pas. Donc et in fine, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Pas grand-chose.
Oui.
Donc, faut aussi relativiser ce qu'un oui. Donald Trump, qui a une capacité quand même, en tant qu'amateur de MMA, de se regarder musclé dans un miroir, et la réalité des faits, et la oui. réalité de ce qu'est le commerce mondial, que oui. c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas avec un joystick.
Heureusement,
depuis,
d'ailleurs.
Heureusement, depuis le bureau ovale. Oui. Et les Iraniens l'ont compris aussi. Donc,
il avait déjà menacé l'Espagne, d'ailleurs, voilà. en 2025, Donald Trump, et puis rien ne s'était passé, de droite douane exorbitante.
Je pense que c'est un piège, en fait, que Donald Trump, à chaque fois qu'il est dans ces réactions-là étant un piège. Je pense que fondamentalement, si on essaie de prendre de la hauteur, là c'est la séquence Sanchez-Trump, oui. et demain, on ne sait pas qui va tomber dans la moulinette parce qu'il a osé lever le petit doigt et tout ça, dans un dialogue, peu importe ce qu'est Sanchez. Je pense que Donald Trump a une allergie profonde à ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est surtout ça
Il essaie de mettre des coups de boutoir et de faire du bilatéral.
Ces attaques, un peu à chaque fois par pays, qui sont une façon de bypasser l'Europe à chaque fois, puisque c'est quand même des attaques au sein d'une économie. Ça veut dire quoi, dire on va arrêter l'économie avec l'Espagne? Ça veut dire l'Europe n'existe plus dans ma façon de penser le monde à chaque fois. Et c'est sûrement ça, le réveil européen qui doit être clair, c'est-à-dire c'est ne pas permettre cette fragmentation du dialogue, tant de la part de Sanchez que de Donald Trump, parce que ces coups de butoir à chaque fois vont dans le même sens, c'est-à-dire c'est créer quand même des visions un peu unilatérales, là où on attendrait oui. notamment de Van der Leyen.
Oui, mais Sanchez, il l'a...
L'intelligence. Ici, je voudrais quand même réagir sur le sujet.
Oui.
Ici, c'est pas... C'est pas Trump, là. Hein.
C'est Sanchez.
De deux côtés, la fragmentation...
Je veux dire ça, Ludovic. Je comprends ce que vous dites, et je suis aussi sur le côté, il ne faut pas non plus accepter tout le côté européen. Mais là, c'est aller vraiment, pour des raisons, à mon avis, de politique interne, étant donné les résultats électoraux, se donner une ossature internationale, où même tous les autres Européens ne l'ont pas trouvé solidaire. Il y a deux choses importantes. C'est je ne paye pas. Imaginez que mon petit pays qui ne payait pas, il dit la même chose. Avec l'OTAN chez lui en plus, on paye notre contrepartie à cause d'un accord qu'on a signé tous en 2014. Donc ici, point. Lui, il décide tout seul de se désolidariser. C'est déjà pas, on peut dire,
c'est
sympathique.
C'est pas terrible pour l'Union européenne.
Deuxième image. Après que l'Espagne ait été quand même le troisième contributeur quand même européen à l'OTAN, que ses dépenses aient augmenté 5 fois plus que son PIB.
Oui, mais néanmoins, par rapport à ce qui est demandé, il se désolidarise. Puis après, il fait un coup qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose puisqu'il s'est posé ailleurs, dans un conflit où il vient plutôt, en tous les cas, régler le détroit d'Ormuz. On voit qu'il cherche à ce moment-là. Et donc, il obtient, à juste titre, si vous le provoquez, Trump, dans du Trump. Et donc, je dis ici, et c'est ce que je vous disais, autant on ne sait pas ce qu'il va avoir derrière, autant pour les entreprises espagnoles qui, eux, contrairement à la France, ont une visibilité pour avec tous les efforts qu'ils ont faits, en disant « tout va bien », il y a déjà les tarifs où ils ne savent rien faire, puisque ça, c'est une négociation au niveau de Bruxelles. Ce n'était pas nécessaire de rajouter ça. C'est surtout que je voulais dire.
Est-ce que l'Espagne est
vraiment dans
la fragmentation?
C'est vraiment ça. Mais par contre, sur le reste, on l'a dit tout à l'heure, Trump, il est adroit ou pas adroit, mais en tous les cas, il négocie tout le temps. Mais ici, je trouve que c'était provoquer inutilement un problème dans un pays qui va, pour le coup, lui, très bien.
Et qui a besoin des États-Unis ou pas? Alors, les États-Unis sont le premier investisseur étranger en Espagne. Ça, c'est un premier point. Mais inversement, parce que l'Espagne, qui est beaucoup plus connecté à l'Amérique latine, bien évidemment, a véritablement besoin des États-Unis.
Mais voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Est-ce qu'on en a besoin et pas besoin? Ça, c'est en tous les cas, de mettre des entraves soi-même à un commerce qu'on voudrait international, c'est de toute façon mauvais. Alors, si Trump l'aimait lui-même, ben là, on ne sait rien faire puisque ça vient de lui. Mais si nous, en plus, on s'amuse à rendre le sol glissant, il adore ça, il va tomber, puis il se redresse et il nous fout deux baffes. Donc voilà, c'est inutile.
Donc, c'est pas...
Je trouvais que ce n'était pas judicieux. Et surtout, je vous disais, j'étais content de vous donner l'opinion des Espagnols. Oui, quand oui. Même, hein. Il est plus trop suivi.
Chef d'entreprise espagnole. Et là, vous êtes d'accord, Nathalie Janson?
Ah oui, non, mais c'est ce que je disais. Je pense que je ne comprends pas pourquoi il a eu envie de faire cette provocation. Il n'y avait pas besoin. Et effectivement, même du point de vue de l'idée de l'Europe, c'est pas. Enfin, je pense pas qu'il ait consulté ses homologues en disant tiens, je peux lui dire qu'en fait, moi, je veux plus payer. Non, je pense que ça n'a pas été ça. Donc, je pense que tout ça, c'est un peu beaucoup de bruit pour rien
carte,
et c'est dommage.
Ouais, exactement. Quoi.
Là, il fait vraiment très politique.
Et un bel exemple, c'est que vous n'avez pas vu de réaction européenne.
Hein, non, d'ailleurs, personne s'est abstenu de.
Les autres auraient pu dire. Avec Mélanie, vous avez vu, il y a des réactions européennes. Sur Mélanie, ça, c'est vrai. Je rejoins tout à fait ce que Mick a dit. Là, il aime bien titiller, mais tout l'Europe a dit ça va, c'est bon. Ici, personne n'a bougé.
Bah non.
Bon. Suite aux prochains épisodes, les frappes, elles, pendant ce temps-là, augmentent. 90 cibles visées par les États-Unis en ce moment même en Iran. Allez, il nous reste un bon quart d'heure à passer ensemble. On va revenir en France pour parler d'un sujet récurrent dans le débat public et qu'on aime bien, c'est la fonction publique. Le gouvernement a confirmé hier le gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2027. Ce qui évidemment a provoqué la colère des syndicats qui ont annoncé un mouvement de contestation fin septembre. Oui, mais seulement voilà, 1% d'augmentation générale, c'est 2,4 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Alors, est-ce qu'il faut cibler les fonctionnaires dans les économies, Nathalie Janson?
Ah, le problème des fonctionnaires, oui, c'est une espèce d'arlésienne en France. Hein, donc, ça fait.
Sont maltraités, nos fonctionnaires?
Maltraités, dans une certaine mesure, oui. Ils n'ont pas bénéficié de beaucoup, effectivement, d'augmentation de leur traitement. En même temps, il y a aussi dans certaines parties de l'administration, il y a peut-être aussi des problèmes de productivité. Donc, oui. Puisqu'en général, on lit.
Vous êtes en train de nous dire que les fonctionnaires ne bossent pas.
Non, justement.
Cette image caricaturale.
Non, c'est justement. Voilà, c'est justement tout le problème. Je pense que la fonction publique est diverse.
Oui.
Très mal. Voilà. Que la traiter tous pareil.
C'est vrai qu'il y a évidemment.
Que la traiter tous pareil, bien, c'est effectivement pas une bonne idée, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et qu'on voit bien qu'avec le temps, ça devient problématique. Et je pense même qu'il faudrait, effectivement, moi je fais partie de celles, mais c'est pas très surprenant puisque je suis d'obédience libérale, qui voudrait effectivement mettre un terme à la fonction publique telle qu'elle est aujourd'hui dans ces termes et d'avoir des contrats qui n'ont rien à voir, qui sont des contrats d'ailleurs plus courts parce que je vois pas pourquoi vous seriez fonctionnaire à vie. Je pense que dans la vie on peut avoir plusieurs carrières, ce serait d'ailleurs tout le bien qu'on pourrait leur faire.
Et surtout, justement, ça rapporte au sujet des salaires et du pouvoir d'achat, c'est-à-dire pour vous donner la sécurité de l'emploi contre les salaires un peu inférieurs à ceux du privé.
Et je pense aussi que ça pourrait bénéficier, enfin on pourrait avoir, il faudrait mieux payer les fonctionnaires. Vous savez bien qu'un des pays qui est toujours donné en exemple pour avoir une fonction publique efficace, c'est Singapour. Et Singapour paie très bien ses fonctionnaires puisque il n'y a rien de mystérieux. Il y a plein de littérature sur le marché du travail, le salaire d'efficience. On sait que si vous êtes correctement payé et heureux, vous travaillez d'autant mieux. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'effectivement c'est la meilleure. Il faut réformer les statuts du fonctionnaire, c'est clair. Il faut pas simplement adresser ce problème du point. Aujourd'hui, il part au plus pressé, c'est-à-dire qu'on a un problème budgétaire, donc on va encore les squeezer. Je ne pense pas qu'effectivement ce soit une bonne nouvelle, puisque squeezer davantage, ça donne des mécontents, ça ne favorise pas une fonction publique qui soit hyper engagée. Et tout ça est bien dommage, et il faudrait effectivement surtout changer ce statut de fonction publique.
C'est pas parce qu'on ne fait pas d'augmentation généralisée, Ludovic de Sauté, qu'il n'y aura pas d'augmentation non plus au sein de la fonction publique, on est d'accord.
Pour autant. Mais je suis totalement d'accord avec Nathalie. C'est-à-dire, bon, après, tout ça se joue évidemment à 10 mois d'une présidentielle. Et voilà, mais on est dans une mesure, on va dire, d'urgence, ni plus ni moins. Hein. C'est-à-dire que là, il s'agit d'aller chercher des poches, des milliards, comme on va chercher des poches de gaz de schiste, ni plus ni moins. L'éléphant dans la pièce est complètement mis de côté, c'est-à-dire, si on met la réforme dans une vision noble, c'est-à-dire que tel que le défend Nathalie aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fonction publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est repenser, je pense, une partie.
Un contrat à plus court terme, par exemple.
Et je pense qu'il y a une partie aujourd'hui des fonctionnaires.
On a augmenté fortement fortement les contractuels, hein, même au sein de la fonction
Il y a une partie des fonctionnaires qui, dans leur tâche, en tant que salariés, sont probablement malheureux, voient leur mission se dégrader, une perte de sens, enfin peu importe, l'éducation nationale est un bon exemple malheureusement, là où ce sont des missions assez essentielles dans un pays et dans une économie développée. Évidemment, et là, à nouveau, il y a peut-être l'excuse de la présidentielle, mais à nouveau, on prend le dossier à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une vision comptable, là où il faudra avoir une vision, la capacité à s'asseoir avec les représentants, de façon très très large, et dire comment on repart autrement. C'est-à-dire c'est vraiment ça. Et je pense le pire.
Emmanuel Macron avait essayé quand même lors de son premier mandat. Hein, il avait mis 700 millions d'euros sur la table pour réformer la fonction publique.
Et je pense que
le pire,
c'est
que
probablement de plus en plus en face, il y a cette volonté, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin, c'est-à-dire il y a une nasse. Après, je rajoute juste un point, c'est que là, on a un raisonnement un peu parisien et tout ça. Dans les collectivités territoriales, on a une énorme responsabilité dans le dossier aussi.
Oui.
C'est pas que l'État à Paris.
Une disparité.
Ouais, c'est pas que l'État à Paris et Bercy. Loin s'en faut. C'est-à-dire que même si, même presque un dossier à prioriser, ça serait plutôt du côté des collectivités en la matière.
Ouais, tout le monde n'est pas aux 35 heures encore.
Ouais, ouais. Et là-dessus, il y a la France. Tout à l'heure, on parlait de la dette. La France, au même titre que d'avoir la capacité à prendre le dossier de la dette, c'est un dossier fondamental et de réforme réelle.
Est-ce que c'est un sujet qu'on a en Belgique aussi,
Roland Gillet ? Bien sûr.
Avec les mêmes données, les mêmes sujets ?
Non, pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont régionalisées, donc ils ne sont pas la même chose en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie. Et donc, clairement, mais on doit adresser aussi ce problème de la notion de fonctionnaire. Et déjà, même dans les universités, il y a les grandes écoles en France ne sont pas des fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire quand je suis en France, puisque je suis professeur à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. En Belgique, il y a des universités qui reçoivent de l'argent effectivement du public, mais qui sont gérées de façon indépendante. Il y en a d'autres qui sont clairement publiques. Donc, pour caractériser qui est fonctionnaire ou pas, il faut faire, une étude approfondie. Mais clairement, on a le problème également. Par contre, c'est toujours la même chose. Et ça, ce que vous venez de dire, et qu'il y a un problème en France, mais qui l'est également en Espagne, puisqu'on parlait de l'Espagne tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit que ça dérape pour quelque raison que ce soit. Il y a le côté évidemment du coût, mais il y a aussi le côté de la productivité, il y a le côté sectoriel, où certains endroits avant demandaient beaucoup de fonctionnaires parce que c'était nécessaire, aujourd'hui il en faut peut-être moins, il faut rééquilibrer, il faut rendre le système plus efficient et surtout plus motivant, hein, parce que c'est vrai que c'est facile de dire les fonctionnaires, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que le coût n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on en attend.
Oui, et puis
mais ça demande une réforme de fond. Et c'est pour ça quand on fait quand on met tout le monde dans le même sac, on fait forcément un grand nombre de mécontents parce qu'il y a quand même des gens qui font leur travail convenablement et il y a d'autres personnes qui sont plutôt un peu qui disent tant que ça tient, ben moi je suis plus ou moins protégé. Donc il faut vraiment une réforme de fond. Or pour le moment, c'est un peu comme la sécurité sociale, hein, c'est un poste aussi qui handicape beaucoup la France. C'est tant qu'on n'ira pas vraiment poigner dedans en essayant de faire les choses convenablement, on fera des petites réformettes et qui ne satisferont ni l'un ni l'autre, quoi.
On a des exemples de pays qui ont réformé leur fonction publique, enfin c'est installé depuis tellement longtemps. Imagine mal donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire on arrête le métier à vie, on met des incentives, des primes à la performance, les meilleurs seront rétribués, les moins bons un peu moins.
Singapour c'est connu pour effectivement avoir une administration qui est bien payée. Je pense que un pays comme l'Estonie sans doute a dû procéder. Alors effectivement, je ne connais pas, mais je sais que
ils sont excellents en termes de numérique.
Exactement,
c'est l'Estonie comme on dit.
Exactement. Je pense que dans les départs de la fonction publique et le repenser de la fonction publique, il y a toute cette partie de administration qui quand même, à l'heure où on est aujourd'hui et
en plus on est bon ou pas là-dessus, nous en France.
Pour le moment, on a des poches qui sont. On a un problème de fuite de données, qui est quand même un problème pour que ça marche bien. Le problème, c'est que si on démontre que lorsqu'on fait, ça donne.
Si ça part à Pékin ou aux États-Unis.
C'est pas très, très engageant non plus. Mais néanmoins, on pourrait.
On a appris quand même cette semaine dans un papier des Échos, et on avait Dorothée Rouzet, la chef économiste du Trésor hier, que l'administration française était en train de tester des modèles d'IA, des modèles chinois. Mais puisqu'ils sont en open source, on peut les sécuriser à l'intérieur d'un système fermé au sein de l'administration. Système qui n'a pas été retenu au Trésor d'ailleurs parce qu'il y avait des biais. Les réponses étaient un peu
étaient planificateurs.
Parfois, voilà. C'était le donc, ils l'ont écarté, mais l'administration française est bien en train de tester aussi les DIA.
Mais bien sûr, non, il y a des administrations qui sont, enfin, qui l'ont déjà. De toute façon, le service des impôts est plutôt assez efficace de ce côté-là. Mais effectivement, le sujet peut être adressé, parce que ça veut dire que certaines tâches qui ne sont plus très intéressantes pourraient être déléguées, effectivement, à de l'intelligence artificielle. Il y a des choses où aussi on peut utiliser la blockchain pour conserver l'information. Enfin, il y a beaucoup de créativité qu'on pourrait utiliser. Et donc, on voit bien qu'il y a des fonctionnaires qu'on pourrait ne pas remplacer. C'est-à-dire que là, voilà, c'est simplement...
Oui, c'est le moment de toute une génération.
Exactement. C'est-à-dire qu'on assure une qualité de service public parce que c'est très important. Et il faut pas... Enfin, voilà, moi, je vous pose pas... Je veux pas la fin du service public. Mais effectivement, tout ce qu'on veut, c'est que le service public soit, en termes de qualité, à la hauteur. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut effectivement continuer d'assurer une certaine qualité en ayant quand même moins de fonctionnaires et des fonctionnaires plus qui ont un travail plus valorisé.
Mais oui, le MEDEF propose 100 000 suppressions de postes.
Et à ce moment-là, même mieux payé.
Bien sûr.
Alors, enfin, totalement d'accord avec Nathalie. C'est-à-dire, s'il y a des exemples, parce que Singapour est un petit peu exotique, on va dire.
Exactement.
C'est probablement. C'est pas tout à fait le modèle français, culturellement.
Non, mais les Pays-Bas sont des bons exemples. Finalement, ils ont la chance d'avoir eu la feuille blanche récemment.
Et du coup, de pouvoir faire un saut de grenouille et d'aller directement vers le plus moderne.
Après, je pense que le débat, il faut pas l'enfermer dans une vision administrative, parce que bon, après, il y a des succès, il y a Bercy. Quand on regarde le système d'imposition aujourd'hui, il a fait sa révolution en 10-15 ans. Enfin,
je veux dire, et ça marche. Prélèvement à la source, tout le monde depuis 50 ans disait que ça allait tout faire sauter, et ça a très bien fonctionné.
Après, on trouvera toujours des failles, mais comme on trouve des failles dans n'importe quel service, y compris dans une entreprise privée.
Recouvrement de l'impôt sur le revenu, c'est 99, quelque chose de pourcent.
Moi, je pense que la question n'est pas tant sur le traitement administratif aujourd'hui, et ce qu'il faut prendre ce dossier de la fonction publique, c'est davantage sur les métiers de contact, parce que c'est là où il y a une perception de la part du citoyen de la valeur ajoutée. Et les métiers de contact, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité. La justice et tout ça, c'est un des métiers où à un moment ou à un autre dans la vie, pour des raisons positives ou négatives, on se retrouve en tant que citoyen en interaction là avec de l'humain, parfois dans des circonstances qui sont plus ou moins agréables. Et c'est là où la perception réelle de la valeur, elle se fera pas honnêtement sur le fait qu'il y a une mise à jour de l'appli impots.gouv, parce que ça aujourd'hui je pense que c'est plus perçu dans un
puis on estime que c'est naturel,
c'est naturel, et tout le monde fait des mises à jour et ils ont changé de code couleur, c'est mieux ça, je clique et tout ça non, la perception elle est devenue nulle. Je pense que la perception aujourd'hui c'est dans la vie quotidienne. Et c'est là où la grande réforme à penser, surtout dans une population qui vieillit, surtout dans une population qui va voir le nombre d'étudiants et d'écoliers diminuer, et ça va demander à repenser des choses, parce que sinon on va laisser un système hypertrophié par rapport à une réalité et tout ça. Sur la santé, sur lequel il y a des enjeux fondamentaux, on le voit, enfin, la santé est un secteur qui souffre. C'est là où il faut prioriser, parce que je pense qu'on peut recréer une noblesse et une perception de la valeur dans ces notions de contact. Et ça, c'est un magnifique chantier.
Le MEDEF propose 100 000 suppressions de postes. Je rappelle qu'on a 5,6 ou 5,8 millions de fonctionnaires en France. 100 000 postes supprimés, c'est ce que propose aussi Gabriel Attal, c'est ce que propose Édouard Philippe de mémoire.
Ils ont eu la même personne qui leur a fait les prévisions.
Ouais, sans doute.
C'est possible. C'est un chiffre rond, disons.
Oui, c'est un chiffre indicatif.
François Fillon, c'était 500 000.
Oui, c'était beaucoup plus.
Il faut s'en souvenir. Bon, c'est un chiffre politique,
sans doute, peut-être que ça correspond au flux.
C'est une conception économique pertinente, ce chiffre.
Honnêtement, je pourrais pas dire si elle est pertinente ou pas. Est-ce que ça rejoint des flux naturels de départ, ce qui fait qu'en fait ça n'engage rien, c'est possible aussi.
Et le nombre, c'est toujours pareil. On augmente pas les salaires. Point. Ouais. Bon. On supprime 100 000. Mais si on le fait sans avoir fait vraiment une étude au cas par cas, au moins secteur par secteur, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de rendre le système plus efficient, avec des gens plus motivés et peut-être à ce moment-là mieux payés, et d'orienter les autres. Évidemment, le but n'est pas de créer une catastrophe sociale. Mais par contre, aller balancer.
C'est vrai qu'on n'en parle jamais. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'on maltraite notre fonction publique aussi? Ces gens-là sont au service du public normalement. Et on ne parle que, on va vous serrer la vis, du poing. Vous voyez, on va supprimer des postes. Ce ne sont pas les messages les plus positifs.
Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, aussi de l'autre côté, dans mon pays comme dans d'autres, et je sais que c'est vrai aussi en France, c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on doit refuser toute évaluation.
Exactement. Oui.
Moi, j'ai été à la fois dans
des grandes écoles,
il y avait des évaluations, et par les les étudiants. Dans mon pays, même à l'Université libre de Bruxelles, moi je trouve ça génial, les étudiants qui sont quand même les consommateurs évaluent leurs professeurs. Et qu'après, il y ait une discussion sur la qualité ou bien de la pédagogie ou bien de la recherche, je trouve ça tout à fait normal. Il y a pas, quand on fait son travail convenablement, on n'est pas gêné d'avoir une évaluation. L'évaluation n'est pas nécessairement mauvaise, d'autant plus quand elle est bonne. S'il y a en plus, entre guillemets, la carotte de l'autre côté, que ce soit en termes de progression.
C'est ça, les incentives.
Mais non, mais c'est ça, c'est jouer dans les deux sens.
Mais ce que dit Roland, oui, de 100 000, j'aime pas un peu ces chiffres valises.
Non, ouais,
parce que je pense que la bonne réflexion, ça serait peut-être, peu importe le chiffre, hein, je m'en dirais un 100 000, mais en même temps, peut-être qu'à d'autres endroits, à l'inverse, il faut en prendre 40 000.
Bien sûr.
En fait, c'est ça la réalité.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est une enveloppe globale. On sait qu'on va avoir un choc démographique à gérer, donc il va y avoir des efforts de la nation à faire dans certains domaines pour accompagner ce vieillissement de la population. Donc c'est là où on a une vision qui est simplificatrice et on a honnêtement des acteurs politiques coupables dans la façon.
Et vous pouvez décourager à la fin ceux qui font leur travail convenablement. Imaginez à celui qu'on dit on ne l'augmente pas parce qu'on a dit qu'à tout le monde c'était comme ça, et celui qui se trouve largement au-dessus de la moyenne, lui, il trouve ça tout à fait injuste.
De toute façon, c'est
parce qu'il n'est pas solidaire, c'est parce que c'est injuste.
Mais c'est toute la difficulté de la gestion de la fonction publique, et c'est vrai que par exemple dans les écoles c'est terrible. Enfin, donc dans la gestion de l'école, à la fois primaire, secondaire, université, c'est encore un autre régime, mais c'est vrai que c'est terrible et ça n'attire pas les vocations. Mais on peut aussi
la question de l'attractivité.
Voilà, exactement. Et il faut aussi se dire qu'on peut peut-être aussi envisager d'avoir de la mise en concurrence de différences. D'entreprises privées qui pourraient assumer des missions de service public. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un gros mot en France, mais néanmoins, c'est des choses qui peuvent se concevoir, qu'en fait, on peut assurer service public de façon différente.
Bon, une autre fonction publique est possible. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Nathalie Janson, Ludovic de Sauté et Roland Gillet, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spéciale croissance, animée par Sandra Gandoin. Quant à nous, eh bien, on se retrouve même heure, même endroit, 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Pour la dernière de la saison, ne la ratez pas. Hein, ce sera l'occasion de se dire au revoir, un bel été. Très bonne journée à tous, à demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.